Radio Star
Bell. Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Nous avons mené une petite étude qui nous amène vers un chiffre de 600 à 800 avortements par jour au Maroc.
600-800 par jour, c'est beaucoup. Les pro-avortements essaient d'éviter pour les femmes les aiguilles à tricoter et autres remèdes épouvantables. Mais vous imaginez bien que c'est compliqué dans ce pays pour comprendre. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Nicaragua, en Inde et au Tchad. 18h50, le monde selon Trump, saison 3, avec des fonctionnaires qui retournent enfin au travail à Washington. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Fourré. L'Europe face à la crise vénézuélienne. Mais avant, c'est en Égypte que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Emmanuel Macron est donc en visite en Égypte jusqu'à demain. Il a rencontré le maréchal Sissi, il a parlé armement, pas seulement. On y viendra évidemment. On va surtout voir dans quelle Égypte il est, ce président français, 8 ans après la Révolution. Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes et du Moyen-Orient. Vous êtes chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po notamment. Alors dans quelle Égypte justement il est, à votre avis, Emmanuel Macron ce soir, celle de Sissi, pas forcément celle des Égyptiens? Qu'est-ce qu'il a vu au fond?
Ben, je pense que le président Macron n'a pas eu le temps de voir grand-chose, mais ce qui est clair, c'est que la situation aujourd'hui est absolument, enfin, est très préoccupante, puisque la stratégie du président Sissi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune voix discordante qui se fasse entendre dans le pays. Donc, tout est vraiment fait de telle façon que ce soit simplement ses partisans qui puissent exprimer. Toute voix qui s'élève contre la stratégie du président est vraiment mise en question, avec beaucoup d'arrestations. Et donc, c'est vrai que les organisations des droits de l'homme sont très très inquiètes de la tournure que prend l'Égypte aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de personnes en prison, et pas simplement les frères musulmans qui sont aujourd'hui considérés comme une organisation terroriste, mais les jeunes militants ou les jeunes citoyens simplement égyptiens qui avaient manifesté au moment de la révolution en 2011. Nombre d'entre eux aujourd'hui sont emprisonnés, puisque le président Sissi estime que toute voix contestataire en fait fait le jeu des terroristes, et mettant tout le même, si je puis dire, dans le même sac, ce qui pose un certain nombre de questions pour le devenir de ce pays.
Les blogueurs parlent un langage tout à fait différent de la réalité que nous vivons. L'Égypte ne se serait pas construite avec les blogueurs, mais elle s'est construite par le travail, l'effort et la persévérance. C'est lui qui parle, et c'était tout à l'heure à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, où on pouvait s'en douter, non ? Personne n'a empiété sur les plates-bandes de l'autre, et certainement pas Emmanuel Macron sur les plates-bandes des droits de l'homme, ou très peu.
Même si on a vu quand même au cours de ce déplacement une volonté du président français d'aborder quand même un tout petit peu cette question, alors que lors de la visite de Sissi à Paris en octobre 2017, rien n'avait été dit. Et donc Macron s'était attiré les foudres de ces organisations des droits de l'homme. Donc
il avait dit qu'il fallait donner de leçons à personne, ce qui était aussi une manière de se mettre sur le siège arrière.
Et donc on voit aujourd'hui quand même que le président Macron a compris qu'il ne pouvait pas passer complètement sous silence cette question, parce que c'est une question qui est importante, que les organisations égyptiennes des droits de l'homme ont été reçues à l'Élysée avant son départ pour le Caire. Mais on voit bien qu'on revient toujours un peu à cette même dialectique qui est de toute façon la question du terrorisme fait qu'on ne peut plus aborder ces questions sereinement. Et pour un président comme Sissi, qui, vous l'avez rappelé, est maréchal, est avant tout un militaire, il a fait toute sa carrière dans l'armée, il a été à la tête des services de renseignement, et donc il a un logiciel qui est avant tout un logiciel de militaire et de chef de service de renseignement. Et donc on voit bien à partir de là ce que ça veut dire dans la perception du monde qu'il a, qui est une perception très limitée.
Et comme vous le dites, c'est un peu le discours qu'on sert à chaque fois. Je vous entends, là j'ai l'impression qu'on nous dit exactement la même chose que ce qu'on disait en 2011 de Moubarak, avant que Moubarak ne soit renversé par la foule. On disait exactement la même chose.
Oui, et c'est ça qui est absolument terrifiant, c'est cette incapacité d'un pouvoir égyptien aujourd'hui incarné par Sissi, de ne pas se rendre compte que la façon de gérer aujourd'hui le pays, qui ressemble à ce qui avait été sous les années de Moubarak, risque de conduire aux mêmes effets. Et alors, sans vouloir dire que la situation aujourd'hui est pareille qu'avant Moubarak, ou pire que ça n'était du temps de Moubarak, parce qu'il y a quand même eu une révolution qui s'est déroulée, que les Égyptiens sont descendus dans la rue, ont réussi à obtenir le départ de Moubarak, donc il y a eu des avancées. Donc il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant ou pas, ce n'est pas du tout ça le propos, mais c'est vrai qu'on voit un pouvoir aujourd'hui qui est incapable de tenir compte justement de ce qu'a été cette révolution, en reprenant des vieilles habitudes, des comportements. Petite anecdote, l'Égypte au mois de décembre a interdit l'importation des gilets jaunes. ils ne peuvent être importés absolument qu'avec une autorisation, de peur que, à l'occasion du 8e anniversaire de la Révolution, les Égyptiens s'emparent de ces gilets jaunes à l'image de ce qui se passe en France. Ça en dit long sur l'état de ce pouvoir vis-à-vis de sa société.
Alors il faut se souvenir quand même, parce qu'on a un peu la mémoire courte, qu'en 2013, lorsque le maréchal Sissi arrive, alors il n'arrive pas démocratiquement par les urnes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la population est là, la population est derrière. À quel moment le naturel est revenu et a chassé le reste, et le naturel est reparti au galop, en fait, à quel moment la population s'est rendue compte que, bah non, en fait, tout ce qu'on avait pu placer derrière le maréchal Sissi, de toute façon, on ne le verrait pas, et que militaire et sociétal sont finalement deux choses qui ne se rencontrent pas.
Ce que je crois, c'est que là, beaucoup d'Égyptiens ont, après la gestion calamiteuse de Mohamed Morsi, qui était président frère musulman, a espéré qu'avec l'arrivée de Sissi, les choses allaient se stabiliser.
Stabilité, sécurité, sécurité, un discours qu'on a déjà entendu.
Effectivement, une demande d'État, une demande de retour à l'ordre, parce que la situation était catastrophique et que la majorité des Égyptiens veulent vivre simplement normalement. Donc il y a eu cet espoir fou, avec l'espoir aussi que le Sissi, bien qu'étant militaire, comprendrait cette demande de la société. Or, je le répète, le logiciel de Sissi...
Mais il a fait croire qu'il le comprenait, par ailleurs, les premiers discours. Est-ce que c'est lui qui parlait de gagner les cœurs et les esprits? Enfin bon, il y avait tout un discours qui ressemblait à ça.
Oui, il y avait un discours. Alors, les observateurs étaient quand même un peu sceptiques, craignant quand même que le naturel d'un général qui a fait toute sa carrière dans l'armée reprenne le dessus. Ce qui est très significatif, c'est que Sissi, en arrivant au pouvoir, ne s'est pas entouré de beaucoup de politiques. Il est resté avec un environnement très militaire des personnes avec qui il a l'habitude de travailler, et donc d'une certaine manière n'ont pas aidé à percevoir que la société était en attente d'autre chose. Et la société, très vite quand même, s'est rendue compte. Pendant encore un an, deux ans, il y a eu l'espoir que les choses allaient se passer, mais la demande d'ordre était telle à ce moment-là que c'est vrai que c'est ça qui l'a emporté sur le reste.
Mais est-ce qu'il le voit aujourd'hui? Est-ce que la grogne sociale, en quoi elle est différente de celle de 2011? Au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne retourne pas sur la place Tahrir?
Ce qui fait qu'on n'y retourne pas, c'est que les Égyptiens sont épuisés. Il faut bien voir que la situation économique au lendemain de la Révolution a été catastrophique. Le tourisme a complètement chuté, pour ne pas dire pratiquement disparaître, que c'est une des quatre ressources de l'économie égyptienne, et qu'on a eu des centaines de milliers de familles qui ont été privées de revenus à cause de ça. Donc aujourd'hui, les Égyptiens sont soumis à un rythme de réforme économique très dur, donc c'est vrai qu'ils souffrent énormément, et en même temps, l'idée de retourner sur la place Tahrir impliquerait en tous les cas une instabilité très grande, et qui risquerait d'avoir des conséquences aussi sur la vie de tous les jours. Donc il me semble que les Égyptiens ne sont pas encore à cet état de se dire tant pis, on n'a plus rien à perdre et on y retourne. En même temps, la décision prise par Sissi d'interdire les jeunes montre bien quand même
qu'il y a quelque chose dans la société et que le
pouvoir, en tous les cas les services de sécurité, se rendent bien compte quand même qu'il y a une grogne qui est là, même si pour l'instant on ne voit pas encore les prémices. Mais il ne faut pas exclure que ça puisse exploser à nouveau.
Quand Emmanuel Macron y va, alors il vend les armes, troisième client égyptien, il y a eu 24 rafales récemment, il y en a une douzaine qui devrait arriver très prochainement, même si apparemment ça a été signé. Est-ce que c'est ça l'essentiel de la visite? Est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de garder nos liens avec le maréchal Sissi?
Alors c'est vrai qu'on
est il y a beaucoup de monde dans son avion également.
Il y a une relation quand même historique avec l'Égypte. Pour la France, l'Égypte est un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il y a des dossiers d'intérêt commun, c'est-à-dire la Libye avant tout, la Syrie dans un deuxième temps, Gaza qui est un sujet. L'Égypte qui va prendre la présidente tournante de l'Union africaine, ça veut dire aussi pour la France un relais sur les questions africaines, sahéliennes qui sont également essentielles.
Et donc ça dit aussi qu'on a besoin de stabilité et que donc pour l'instant on ferme les yeux sur beaucoup de choses.
Aussi exactement, et qu'on estime que l'Égypte, et à juste titre, l'Égypte doit être un interlocuteur de la France sur ces questions géostratégiques du Moyen-Orient, ce qui n'empêche pas qu'on puisse dire un certain nombre de choses sur la question des droits de l'homme. Mais c'est vrai que je crois qu'on aurait tort, en tous les cas, de ne pas discuter aujourd'hui avec l'Égypte, parce qu'on a besoin réciproquement. Et c'est vrai que, du coup, l'Égypte, pour être sûre que la relation avec la France va se maintenir, fait des efforts aussi dans le cadre des contrats économiques. On sait que le métro du Caire a été créé par la France et qu'il y a un projet d'extension. Il y a des projets dans le domaine de l'éolien, parce que c'est un secteur essentiel.
Il a emmené tout le monde, RATP, SNCF, voilà. Veolia, tout le monde était là.
Exactement. Parce que je crois qu'effectivement, ça fait partie de cette relation entre les deux pays qu'on veut sauvegarder à tout prix, parce qu'il y a avant tout cette nécessité vraiment géopolitique sur des dossiers importants pour la France comme pour l'Égypte.
Mais ça veut dire que Sissi est réellement quand même un gage de stabilité. Objectivement, et si on est très froid et qu'on met effectivement les questions des droits de l'homme de côté, ce qui est un peu compliqué, mais si on place les choses comme ça. Oui, il est garant de la stabilité, on peut dire ça, parce que moi j'ai l'impression que sécuritairement parlant, ça se passe quand même pas extrêmement bien, ni chez lui, ni autour de lui.
Non, ça se passe pas bien, et je crains que par la stratégie qu'il mène, on risque plus d'instabilité, parce qu'en mettant tous les opposants dans le même sac, ça ne permet pas une vie démocratique ou une évolution d'une vie démocratique égyptienne qui permettrait d'arriver à une stabilité. On voit bien qu'il y a quand même régulièrement des attentats, alors en particulier dans le Sinaï, parce que effectivement aucune mesure politique n'est prise pour développer cette région qui s'est toujours sentie abandonnée par le pouvoir central du Caire. Et donc la stratégie menée par le président Sissi ne paraît pas être la meilleure pour pouvoir apporter la stabilité. Est-ce qu'il y a l'idée de la part des interlocuteurs en France ou occidentaux d'une façon générale que pour l'instant c'est moins pire qu'autre chose, et donc on fait avec et on essaye quand même de parler peut-être en douce et peut-être pas forcément sur la place publique, à Sissi d'un certain nombre de sujets qui risquent d'être problématiques, comme celui des droits de l'homme. J'imagine que le président Macron a dû en parler en tête-à-tête à Sissi, mais il ne veut pas avoir l'air de donner des leçons. C'est la réponse qui avait été faite par lui lorsque Sissi était venu à Paris.
Qu'est-ce qui se passerait si on lâchait Sissi?
Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, tout dépend de qui viendrait. Je crois surtout que dans l'idée de la France, c'est que on doit parler avec l'Égypte. Et je crois effectivement qu'on doit parler avec l'Égypte. Et en dépit des critiques que l'on peut avoir aujourd'hui sur la façon qu'a Sissi de gérer les affaires intérieures, je crois quand même qu'on a besoin d'une Égypte. On a besoin d'une Égypte rassurée. Et ce qu'on peut attendre de la France, justement, c'est de rassurer l'Égypte en sachant qu'elle fait partie du jeu diplomatique régional, qu'on a besoin d'elle, mais qu'on a aussi en échange, possibilité de lui dire un certain nombre de choses pour l'amener peut-être à faire attention et à gérer une opposition, parce qu'il n'y a que l'intégration d'une opposition dans un système politique équilibré qui permettrait justement d'arriver à cette stabilité.
Sauf que cette opposition a été pour l'instant, si ce n'est emprisonnée ou en tout cas rendue inopérante par le maréchal Sissi, donc on tourne un peu en rond. Est-ce qu'il y a une forme d'opposition, il y a quelque chose ou pas?
Alors il y a un certain nombre de personnes qui continuent à s'exprimer, pas forcément en Égypte, parce que lorsqu'elles sont en Égypte, elles sont soumises quand même à un régime des plus désagréables, pour pas dire autre chose. Mais on sent quand même que la société égyptienne est comme une société vivante. Il y a quand même des intellectuels qui sont là. On a vu des grandes voix comme Alaa El Aswany, qui est très connu en France, le romancier, qui a pris vraiment ses distances par rapport à Sissi après l'avoir soutenu. Et donc, on sent, si vous voulez, qu'il y a quand même de la part d'un certain nombre de responsables, d'intellectuels, de chercheurs égyptiens qui sont prudents dans leur expression, mais ça n'empêche pas pour autant leur capacité à réfléchir et à voir comment les choses peuvent évoluer. Mais c'est vrai que pour cela, ils ont besoin de soutien et que la France devrait aussi de nouer des contacts avec ces personnes-là, même si on discute et on négocie avec Sissi, pour permettre la possibilité, les aider en tous les cas à faire entendre leur voix et de ne pas donner un blanc-seing à Sissi dans cette stratégie.
Agnès Levallois, que sont devenus les frères musulmans en Égypte? Qu'est-ce qu'il en reste? Et est-ce que c'est ça aussi la frayeur? C'est qu'on rejoue la même partition que celle qu'on avait joué juste après la révolution?
Alors les frères musulmans, tous les responsables sont en prison, condamnés à des longues peines et certains condamnés à plus que ça. Donc ils ne sont pas dans la possibilité aujourd'hui d'exprimer un projet ou d'exprimer une réalité parce qu'ils sont soit en prison, soit ils sont partis. Beaucoup ont réussi à quitter le pays. Donc ça ne veut pas dire que cette mouvance n'existe plus. C'est évident qu'au sein de la société, cette mouvance est encore présente, mais elle n'a aucune expression possible parce que la moindre voix qui s'élèverait, de toute façon, la personne se retrouve en prison. Et définitivement. Mais ça, les frères musulmans ont connu ça, j'allais dire, de tout temps en Égypte, puisqu'ils sont régulièrement passés par des phases dans lesquelles ils étaient dans la clandestinité plus totale. Donc, je pense que les réseaux, de toute façon, se mettent en place, existent toujours, même s'ils sont évidemment soumis à une forte pression des services de sécurité qui sont très puissants en Égypte, comme dans beaucoup de pays de la région. Donc, on ne peut pas exclure que, de toute façon, il y ait une réorganisation de cette mouvance, même si tous les cadres sont en prison, et ce qui, évidemment, a sérieusement affaibli cette mouvance, puisqu'il faut quand même un minimum de structure pour pouvoir élaborer un projet ou essayer de présenter une alternative.
Et alors, pardonnez-moi, je reviens un peu en arrière, on parlait de notre rôle et les raisons pour lesquelles, effectivement, on soutient toujours le maréchal Sissi. Qui d'autre, à part nous, aujourd'hui, par exemple, les Américains par rapport à l'Égypte, c'est quoi?
Ça dit les quoi? Américains continuent à soutenir l'Égypte. Simplement, l'Égypte est très méfiante à l'égard du partenaire américain, puisque le Sissi et le haut commandement militaire a très mal vécu le lâchage rapide d'Obama de Hosni Moubarak. Donc, les les Égyptiens ont le sentiment, de toute façon, ils continuent à avoir une relation privilégiée avec les Américains, mais le sentiment que cet allié américain n'est pas fiable.
Mais financière aussi ou pas ?
Non, il y a toujours une aide financière, même si elle est un peu moindre, et il y a du coup un intérêt des Égyptiens pour les Russes, parce que les Égyptiens ont le sentiment, à juste titre d'ailleurs, que les Russes sont un allié beaucoup plus fiable. Quand les Russes accordent leur confiance ou établissent un partenariat, ils ne changent pas d'avis. Alors que les Américains, on les voit lâcher un allié, comme ils l'ont fait avec Hosni Moubarak, et ça, les Égyptiens ont toujours ça en tête, et donc ça les rend un peu méfiants dans la relation avec les Américains, même s'ils continuent à bénéficier de cette relation, et ils ne vont pas la lâcher. Mais ils sont contents de diversifier, d'où l'intérêt pour les Russes, et d'où le partenariat avec la France, qui permet de dire aux Américains, de toute façon, si vous voulez nous lâcher, nous on a d'autres partenaires et on a d'autres alliés.
Et pour boucler la boucle et finir par là où on avait commencé tout à l'heure et sur l'économie égyptienne, où en est cette espèce de capital bis en fait qui était censé être construit, ce qui devait intégralement désengorger le Caire, faire une espèce de ville nouvelle. Est-ce que c'est de l'esbrouf ça, ou est-ce que vraiment c'est en train de sortir de terre ou pas?
Alors le projet est en cours, alors avec beaucoup d'interrogations sur la façon dont il va pouvoir être mené à terme, parce que le projet est absolument colossal. C'est vrai qu'il a été rendu possible par les financements en particulier de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui sont deux pays qui soutiennent véritablement l'économie égyptienne. Donc ce projet fait partie du grand projet de Sisi, qu'il n'a sûrement pas abandonné pour l'instant, qu'il continue à mettre en place. Maintenant, avec quelle réalité après? Est-ce que les Égyptiens iront dans cette ville? Là, il y a beaucoup de réserves, puisqu'il y a un certain nombre de villes nouvelles autour du Caire qui pour l'instant sont pratiquement désertes, parce que les infrastructures de transport n'étant pas mises en place, les Égyptiens n'ont qu'une ville d'y aller, parce que ça veut dire qu'après ils sont bloqués là où ils sont, et donc ça les intéresse pas du tout d'y aller. Donc là, il y a encore, on verra comment les choses évoluent. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir quelle sera la réalité de ce projet, de cette capitale.
Merci beaucoup Agnès Levallois, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Maroc qui se cherche une loi pro-avortement. Ce sera le reportage à suivre. Amélie Perrier, là, sous les radars. Aux États-Unis, Le Monde selon Trump, saison 3. Et Loïc Loury, bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
Et donc, aujourd'hui, on est reparti au travail alors?
Oui, absolument. Et Donald Trump a donc perdu la première manche du shutdown. Tout le monde le dit, sauf lui. Le président veut toujours son mur à la frontière mexicaine.
On verra ça dans un instant. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et donc pour nous?
Oh, que voilà le bon test pour la diplomatie européenne, le Venezuela.
Et on voit ça dans un instant. Il sera autour de 18h55. Jimi Hendrix, Fox Lady sur France Inter. Il joue bien de la guitare, ce jeune. Foxy Lady et Jimi Hendrix sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Amélie Perrier, sous les radars. Amélie, on parle beaucoup de Venezuela, on parle beaucoup de Brésil. Le Nicaragua, lui, passe sous les radars ce soir.
Oui, le Nicaragua en Amérique centrale, où une délégation d'eurodéputés vient de se rendre. Ils ont pu rencontrer Amaya Copins, une belgo-nicaraguayenne de 23 ans, emprisonnée depuis septembre dernier. Tendez l'oreille, elle répond aux questions des eurodéputés qui la filment au portable.
On reste ici toute la journée, on essaye de se distraire un peu, on fait des bijoux et des bracelets avec du plastique.
Avec les couleurs du drapeau national?
Oui, quand ils nous laissent passer. Mais
ils ne vous laissent pas travailler avec les couleurs du drapeau national?
Non.
C'est crime?
Oui.
Voilà, Amaya Copins, qui ne peut pas faire de bracelet en plastique bleu et blanc. La jeune femme, en cinquième année de médecine, est une figure du mouvement étudiant d'avril dernier. En tête des manifestations contre le président Ortega, un mouvement réprimé dans le sang, 320 morts, 2000 blessés et au moins 300 protestateurs poursuivis jusque chez eux où ils sont arrêtés, parfois pour terrorisme, comme Amaya. Le président Ortega, c'était un héros pour le pays, héros de la lutte sandiniste qui a renversé la dictature des Somoza. Il a été président une première fois dans les années 80, puis de nouveau depuis 2007. Sauf que l'idole est devenue l'épouvantail de la colère d'un pays. Il a abandonné ces dernières années la rhétorique révolutionnaire de la gauche sandiniste et surtout son épouse a pris une place immense dans le pouvoir. Rosario Murillo, elle est poétesse, enseignante, une éminence grise du chef de l'État. Elle a désormais autant de pouvoir qu'Ortega. On la surnomme la Chamuca, la diablesse ou la sorcière. Elle est férue d'ésotérisme et derrière son look de prêtresse New Age se cache à peine une dame de faire. Elle a réussi ainsi à se débarrasser du noir et rouge de la révolution pour repeindre les affiches et les bâtiments officiels en fuchsia, c'est sa couleur. Mmh. Les eurodéputés en visite ces jours-ci dans le pays tentent de rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Bruxelles pourrait envisager des sanctions en cas d'impasse.
Amélie, le Taj Mahal, ce temple de l'amour où la réalité a des revers bien moins reluisants.
Ouais, c'est aujourd'hui la pollution, les problèmes des déchets, le bâtiment de plus en plus fragile, le nombre de touristes limité pour ne pas l'abîmer plus. Autre fléau, les singes omniprésents sur le site. Et voilà, parfois, eh bien oui, les singes, ils attaquent les touristes, comme celui-ci, oui, qui rit un petit peu jaune, un peu nerveusement. Des hordes de primates se baladent dans le mausolée, harcèlent les visiteurs et parfois leur sautent dessus et les blessent. Alors, pour tenir les animaux à distance, les gardes du Taj Mahal viennent de s'équiper, je vous le donne en mille, de lance-pierres. Ils assurent qu'ils ne les blesseront pas, ils lanceront des petites billes. Oui, parce que les singes sont quand même très respectés en Inde, mais ils représentent une menace pour de nombreuses villes. Ils saccagent les jardins, les toits, les maisons, ils s'en prennent parfois aux humains pour voler de la nourriture. On compterait 50 millions de singes dans le pays, dont 10 000 à Accra, la ville du Taj Mahal.
Voilà, attention à ne pas viser la tête quand même. On termine par un autre site historique au Tchad.
Un site découvert par hasard à N'Djamena, la capitale, sur le chantier de construction de la nouvelle basilique. Des ouvriers ont découvert ce qui ressemble au reste d'un site Sao. Explication avec l'archéologue Clisson Nankana pour TV5 Monde.
De ce côté, il y avait un os de bras qui était là et un autre qui allait de ce côté. Bon, et à ce niveau précisément, on avait trouvé deux bracelets et qui devaient être probablement en bronze.
Voilà, alors l'archéologue, il a peu de doutes, c'est un site Sao, cet ancien peuple d'Afrique, aujourd'hui disparu. Le Tchad compte des centaines de sites Sao, déjà répertoriés, mais l'on manque encore d'indices sur le mode de vie des Sao. Alors parmi les caractéristiques des sites déjà étudiés, de nombreux restes de poterie, des urnes funéraires. Les Sao sont réputés en fait pour leur pouvoir surhumain. D'ailleurs, ils n'ont pas complètement disparu, puisque les Sao, eh bien, c'est aussi le surnom aujourd'hui des joueurs de l'équipe nationale de foot au Tchad.
Ah ben forcément, on en revient toujours au football.
Les Sao.
Franchement, ça sert à rien comme super pouvoir au fond. Alors, allez, Amélie Perrier, merci.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Imaginez-vous, 45 ans en arrière, quand les méthodes pour avorter, faute de loi, c'était les aiguilles à tricoter et des mélanges improbables, donc dangereux, à s'enfoncer dans le vagin. L'IVG au Maroc n'est autorisée que lorsque la vie de la mère est en danger, sinon elle est punie de 2 ans de prison et c'est là que nous allons. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Ce débat-là, donc au Maroc, il essaie d'avoir lieu depuis plusieurs années. Il est question de modifier la loi pour dépénaliser l'avortement, pour les femmes qui ont recouru aussi, pour les médecins qui le pratiquent. Mais le sujet reste évidemment tabou et on écoute votre reportage.
Dans cette maternité du centre-ville de Rabat, Shafik Chraibi, obstétricien, accouche les femmes. Il est aussi à la tête de l'AMLAC, l'association de lutte contre l'avortement clandestin créée il y a quelques années pour alerter contre les grossesses non désirées au Maroc. Selon lui, un véritable problème de santé publique.
Nous avons mené une petite étude, elle vaut ce qu'elle vaut, mais qui nous amène vers un chiffre de 600 à 800 avortements par jour au Maroc. Et parmi ces 600 ou 800 avortements, les deux tiers se feraient par des médecins, peut-être dans de conditions plus ou moins saines, mais il y a un tiers qui se fait de manière traditionnelle, et donc dans des conditions atroces, avec des complications gravissimes, voire mortelles.
En 2015, un reportage d'Envoyé spécial en immersion dans son service fait scandale. Le docteur Chraibi est démis de ses fonctions, mais le praticien reçoit alors un énorme soutien et en profite pour pousser le débat sur l'avortement. Sur instruction royale, une commission est mise sur pied pour dépénaliser l'interruption de grossesse. Problème, 2 ans plus tard, rien n'a bougé. De plus, selon Shafik Chraibi, la réforme envisagée est problématique. L'avortement reste un chapitre du code pénal et seuls certains cas sont prévus.
Ça ne règle que 10 à maximum 15% des situations réelles que nous voyons tous les jours au sein de la société.
En attendant, les médecins continuent de pratiquer l'avortement. Selon la loi, ils encourent 10 ans de prison. La femme qui a recours, elle, risque jusqu'à 2 ans de réclusion. Et pareil pour ceux qui facilitent cette intervention, Shafik Chraibi.
C'est une hypocrisie. On connaît les médecins qui pratiquent l'avortement. Mais ce n'est que le jour où on veut avoir ce médecin, ou le jour où il y a une plainte, ou le jour où il y a une complication, là, on leur tombe dessus. Mais sinon, on les laisse faire, parce qu'ils savent qu'ils règlent un problème.
Pour certains militants, le projet de loi n'est pas acceptable. L'IVG doit être accessible à toutes, sans condition. C'est ce que pense Ibtissam Lajgar, qui fait partie du Mali, un mouvement qui défend les libertés individuelles.
Quand nous luttons pour le droit à l'avortement, c'est pour toutes, et certainement pas au cas par cas. Et pourquoi, encore une fois, ce serait les droits des femmes à chaque fois? Ce sont toujours les femmes à qui l'on dit il faut y aller par étapes, il faut aller doucement, etc. etc. On n'entend pas vraiment cela quand il s'agit d'autres droits. C'est un droit fondamental qui concerne exactement toutes les femmes.
Ce mouvement, lancé en juin dernier, un numéro WhatsApp. Les femmes qui le contactent sont accompagnées pour une IVG médicamenteuse. Femmes mariées ou célibataires, jeunes ou moins jeunes, les demandes émanent de toutes les régions du Maroc et aussi de femmes migrantes, soit une cinquantaine de messages chaque semaine.
Ok, alors là il y a un message, salam, laïjézik berher, brit artothèque. Donc bonjour, salam quoi. S'il vous plaît, je voudrais artothèque. Bonjour monsieur, madame, j'ai une sœur qui désire procéder à un avortement par la méthode médicamenteuse. La grossesse a déjà fait 1 mois et demi, que peut-elle faire?
Le médicament en question est un traitement contre le rhumatisme. En deçà de 10 semaines, il peut être utilisé sans danger pour provoquer un avortement. Mais depuis cet été, le ministère de la Santé l'a retiré du marché marocain. Le mouvement Mali a encore quelques stocks. Il dirige aussi vers une ONG internationale qui envoie le médicament. Pour les autres, le seul recours reste les méthodes traditionnelles, dangereuses et aléatoires, à moins de tomber sur un médecin complaisant, une expérience pénible qu'a connue Louisa il y a 2 ans. Elle a accepté de témoigner, mais a souhaité que l'on modifie sa voix.
Première phrase. La première phrase que je lui ai dit, c'est « Je suis enceinte et je veux avorter ». Il m'a fait l'échographie et il m'a montré le fœtus. Il m'a dit « Tu es à 10 semaines ». Il m'a demandé si je ne voulais pas finalement le garder. Il a essayé 2-3 fois et a fini par me demander si j'étais mariée. Je lui ai répondu non. Et là, il m'a dit « Je comprends ». Viens demain à 11h. Quand il a donné le prix, c'était astronomique. Et je lui ai dit, je vais vous donner tout ce que j'ai, et c'était déjà beaucoup. Et là, le médecin te jauge et voit si tu dis vrai.
Le jour de son IVG, elle s'est réveillée dans un salon, attenant au cabinet du médecin, allongée sur un canapé. Elle se souvient de 5 ou 6 femmes dans la même pièce. Jamais Louisa n'a osé parler de cet épisode, ni à son copain de l'époque, ni à ses amis.
C'était hors de question, parce que je sais comment on te traite quand tu as un accident pareil, et c'est toujours la femme qui est responsable. Et même aujourd'hui, j'ai peur de remettre les pieds chez mon gynéco. Et comment justifier que je me suis fait avorter? Je vais juste dire que je me suis fait opérer.
Le tabou reste très fort au Maroc. Ceci explique sans doute pourquoi la dépénalisation de l'avortement s'enlise depuis plus de 2 ans. Pourquoi ce secret partagé entre de nombreuses femmes reste si difficile à évoquer.
Stéphanie Wenger pour le reportage. Merci beaucoup Stéphanie, vous revenez quand vous voulez. Fat White Family, c'est tout neuf, c'est dans la playlist de France Inter depuis à peine quelques jours. Ça s'appelle Fit, c'est le titre. I could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs. I can see it over and over again. Roll over at the lock, holy blood skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise, I pray and I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity absorbs. Dites donc, ça c'est de la fin, dites-moi. Ils sont britanniques, ça s'appelle Fight White Family. Et le titre c'était Fit sur France Inter.
France Inter. I will work so hard. Fabienne Saint-Ès. I promise you, it's going to change. Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 3 et Loïc Loury ce soir. Loïc, les employés fédéraux ont donc enfin pu reprendre le chemin du travail ce matin. Ceux qui étaient réquisitionnés recevront une fiche de paix. Le shutdown est levé, en tout cas provisoirement. Et ces 35 jours records ont eu un coût très élevé.
Eh oui, 11 milliards de dollars selon le Congrès, c'est environ deux fois ce que réclame Donald Trump pour son mur à la frontière mexicaine. Attention, la reprise des activités fédérales va effacer une partie de l'ardoise, mais l'économie américaine devrait accuser au moins 3 milliards de pertes. Alors tout cela, finalement pour rien, Fabienne, puisque Trump n'a pas obtenu un seul dollar. Les discussions commencent tout juste autour de son mur. Démocrates et républicains ont désormais 3 semaines pour s'entendre. Le président, lui, ne renonce pas à sa construction. Il tweet beaucoup pour appuyer son propre argumentaire. Notamment cet extrait d'un reportage très anxiogène à la frontière mexicaine. C'est le reporter que vous allez entendre parler.
Je me trouve actuellement au Mexique. Et ce qui sépare ce pays du nôtre, c'est cette clôture de barbelés. Alors évidemment, si quelqu'un avait intérêt à passer aux États-Unis, ce ne serait pas un problème du tout. Et croyez-le ou pas, il s'agit même d'un portail que vous pourriez ouvrir, bloqué simplement par du fil de fer barbelé. Les rangers qui surveillent la région disent que ce portail est souvent ouvert, afin que les trafiquants de drogue puissent passer en voiture vers les États-Unis.
Donald Trump a levé le shutdown, mais Donald Trump, on l'a compris, veut donc toujours son mur. Le président menace d'une nouvelle coupure fédérale s'il n'a pas de financement d'ici le 15 février, mais pas certain cette fois que les républicains le suivent dans cette croisade qu'il a, à vrai dire, déjà perdue une fois. Le shutdown a coûté cher à l'économie, on l'a vu, Fabienne, mais aussi politiquement, les sondages sont mauvais. Donald Trump n'est franchement pas dans une position confortable.
Alors c'est vrai que le président et son camp perdent des points. On est à 2 ans de la présidentielle, c'est loin et en même temps pas loin du tout aux États-Unis. Tout ça commence très tôt, en particulier chez les démocrates. Les prétendants commencent à se bousculer. On a parlé la semaine dernière de Kamala Harris. Elle est en campagne, ça y est, c'est parti.
Oui, absolument. Troisième sénatrice à se lancer officiellement. Elle a tenu un premier meeting hier en Californie, assez consensuel. Avant cela, elle a été procureure générale de cet État. C'est certainement sa meilleure carte. Mais pour affronter Donald Trump, elle devra se défaire d'une pléiade de concurrents. Beaucoup ne sont même pas déclarés. Bernie Sanders ou Joe Biden parmi les poids lourds. Hillary Clinton, elle ne ferme pas la porte, d'après CNN, malgré sa défaite face à Trump il y a 2 ans. Impossible de tous les nommer. Il pourrait être une vingtaine. On citera simplement Marianne Williams. Williamson, qui pourrait se déclarer ce soir. C'est une écrivaine à succès, professeure de spiritualité, une amie et une conseillère de la star de télévision Oprah Winfrey.
Professeure de spiritualité, est-ce que c'est pas formidable ce pays, les États-Unis ? Les démocrates, Loïc, qui voient d'un mauvais œil la déclaration d'intention d'un monsieur qui s'appelle Howard Schultz.
Oui, Howard Schultz, milliardaire, ancien patron de la chaîne Starbucks, la chaîne de café, il a annoncé vouloir se présenter sous l'étiquette indépendante.
Nous vivons une période particulièrement incertaine. Non seulement ce président n'est pas qualifié pour occuper son poste, mais de chaque côté, les partis systématiquement ne font pas ce qui est nécessaire au nom du peuple américain, préférant se consacrer chaque jour à une politique revancharde.
Et le problème, Fabienne, c'est que les démocrates forcément craignent de perdre des voix importantes. Il faut se souvenir qu'Hillary Clinton avait remporté le vote populaire il y a 2 ans face à Trump. Chaque bulletin compte. Donald Trump, lui, n'a pas tardé à crucifier Howard Schultz. Il n'a pas les tripes, il n'est pas le plus intelligent, dit le président sur Twitter ce matin. J'espère, dit-il, c'est le plus drôle, que Starbucks continue à payer le loyer pour le remplacement dans la Trump Tower. Voilà qui est dit.
Allez, la polémique du jour pour terminer, Loïc, c'est le dérapage d'un vétéran sur la chaîne NBC.
Je crois que les Latinos devraient faire plus d'efforts en faveur de l'assimilation. C'est une chose que je dis depuis longtemps. Vous savez, ils ne devraient pas juste s'enfermer dans leur communauté, mais s'assurer que tous leurs enfants apprennent à parler anglais, afin qu'ils soient à l'aise avec tout le monde.
Des propos, voilà, signé Tom Brokaw, un visage très connu de la télévision américaine. Les discussions tournaient encore autour du mur de Donald Trump à la frontière mexicaine lorsqu'il a lâché cette bombe. Réaction immédiate sur les réseaux sociaux. Tom Brokaw s'est finalement excusé platement. Reste à voir jusqu'où cela ira. On ne plaisante pas avec ce genre de sortie aux États-Unis. Récemment, on se souvient que la présentatrice Megyn Kelly a été débarquée de son émission en à peine quelques jours. Elle avait défendu, elle, le blackface, une pratique qui consiste à se déguiser en personne noire, et c'était déjà sur cette chaîne NBC.
Loïc Lory, en direct avec nous depuis New York, Trump saison 3. Merci Loïc.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Faure. Jean-Marc, la situation est toujours bloquée au Venezuela. Le nouveau président autoproclamé annonce de nouvelles manifestations. Ce sera pour après-demain et aussi pour samedi prochain. Tout cela pour obtenir des élections. Le président en place, Nicolas Maduro, lui, refuse malgré les appels dans ce sens des principales capitales européennes. Et ce soir, dans votre monde à l'envers, vous vous retournez le miroir. En gros, pour vous, cette crise au Venezuela est très révélatrice de l'état de la diplomatie européenne, ses forces et aussi ses faiblesses.
Oui, cette crise, c'est un peu une maison témoin, vous allez comprendre. D'abord, rappelons la chronologie des faits parce que c'est très éclairant. Tout a commencé dans la cacophonie, pour ne pas dire la course à l'échalote entre capitales européennes. Au départ, il y a 10 jours, l'Union européenne prend une position mi-chef, mi-chou. Il faut des élections libres. Dans ce but, il faudrait créer un groupe de contact. Vous voyez le genre. Les événements s'accélèrent à Caracas. Jeudi dernier, Emmanuel Macron dégaine. Tout seul, avec un tweet droit dans ses bottes qui engage ses partenaires européens sans les avoir vraiment consultés, je vous le lis. Après l'élection illégitime de Nicolas Maduro, l'Europe soutient la restauration de la démocratie. À Madrid, toujours jeudi, cette précipitation française agace un peu et pour cause, histoire oblige, les Espagnols sont particulièrement attentifs à la situation en Amérique latine. Samedi midi cette fois, Paris et Madrid à l'heure se sont concertés en y ajoutant Londres et Berlin. Entre midi 15 et midi 30, les quatre capitales dégainent la même formule, le même ultimatum, chacun dans son pays, chacun dans sa langue. Je vous lis aussi, sans élection annoncée d'ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître Juan Guaido comme président en charge. Enfin, samedi 16h, 4 heures plus tard, l'Union européenne publie à son tour un communiqué. Mais il est moins ferme, un ultimatum sans date d'expiration précise et le nom de Juan Guaido n'est pas prononcé. Vous trouverez évidemment tous ces documents sur le site de France Inter. On se résume. D'abord, chacun a réagi dans son coin, sans prévenir le voisin. Puis, la concertation est arrivée, mais elle n'a pas fait l'unanimité.
Enfin, il y a quand même une position commune, non ? 4 capitales, finalement, c'est pas si mal.
C'est vrai, c'est pas rien, mais ça ne fait pas toute l'Europe. Alors, on va regarder d'abord le verre à moitié plein. Qui s'est mis d'accord ? Paris et Berlin, logique, c'est l'axe franco-allemand en pleine action. Ensuite, Madrid, logique aussi, puisqu'on le disait, le rôle espagnol est primordial sur ce dossier. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez est l'un des rares, avec son prédécesseur, il y a quelques années, José Luis Zapatero, à pouvoir espérer conduire une médiation au Venezuela. Enfin, Londres. Intéressant, Londres. En plein souk du Brexit, les Britanniques font donc diplomatie commune avec leurs 3 voisins européens. Comme quoi, Londres est encore en Europe. Ensuite, le verre à moitié vide. Qui est aux abonnés absents ? D'abord, l'Italie. Son gouvernement, Alliance de la Carpe et du Lapin, est divisé sur cette initiative. Les 5 étoiles de Luigi Di Maio y voient une ingérence dans les affaires vénézuéliennes. À l'inverse, l'extrême droite de Matteo Salvini y est favorable. En tout cas, Rome sort un peu affaiblie de l'épisode. Et l'Union européenne aussi, parce qu'elle n'a pas été capable d'adopter une position commune tranchée en raison de l'opposition de l'Italie et aussi de la Grèce.
Mais on a quand même un peu l'impression qu'avec l'intervention de ces 4 capitales, c'est l'Europe qui parle, non ?
Mais ça nous dit plusieurs choses. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de porter un jugement sur le fait que de savoir si on a raison ou si on a tort de soutenir Guaido contre Maduro. Je cherche juste à comprendre ce qui peut incarner une diplomatie européenne. Leçon numéro 1. Quand 4 capitales comme Paris, Berlin, Londres et Madrid parlent d'une même voix, elles sont écoutées. Et pour cause, puisque nous sommes en présence de 4 des 10 principaux réseaux diplomatiques mondiaux. Chacun dans son coin, on est trop petit, donc on est inaudible. À plusieurs, on fait le poids. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Guaido et Maduro ont tous deux réagi à cette prise de position des 4. L'un ravi, l'autre furieux, mais ça montre bien que tous deux y accordent de l'importance. Leçon numéro 2. Sur les grandes crises internationales, l'unanimité européenne est quasi impossible à obtenir. Et l'Europe restera inaudible si elle n'apprend pas à prendre des décisions à la majorité simple. Sur le Venezuela, la position des grandes puissances, elle est claire. Les États-Unis pour Guaido, la Russie et la Chine pour Maduro. Donc l'Europe doit se décider de 2 choses l'une. Soit elle se décide enfin à devenir une puissance diplomatique et alors il faut qu'elle abandonne la règle de l'unanimité. Soit elle se condamne à compter pour des prunes.